I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee, start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Il y a exactement un an, La Loupe prenait le temps d'un épisode définition, nos fameuses armoires, pour expliquer ce que sont les agences de notation. C'était avec Arnaud Bouillant, le chef du service économie de l'Express, et voilà l'extrait.
Elles évaluent la solvabilité d'une entreprise ou d'un État, c'est-à-dire sa capacité à rembourser l'argent qu'il veut emprunter sur les marchés financiers. Pour cela, les agences, elles analysent les différents indicateurs macroéconomiques qui permettent de dire si l'emprunteur est solide, s'il est capable d'honorer ses échéances et si cette solidité risque ou non de s'effriter dans les mois qui viennent.
Parmi ces indicateurs analysés, il y a le déficit et la dette d'un État, deux mots dont on parle énormément en ce moment et qui sont scrutés dans notre pays. Alors, comme tous les six mois, les notes des agences tombent les unes après les autres, et cette année, l'exécutif et les marchés financiers sont particulièrement fébriles. Dette, la France plombée, c'est le sujet en une de l'Express cette semaine, mais qui est responsable? La réponse dans cet épisode. Quand on évoque des indicateurs macroéconomiques, on fait en général appel à Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Charlotte.
Comme souvent quand on te retrouve en studio, je te propose qu'on commence par un point de définition. L'armoire de la loupe est déjà ouverte et ça va forcément nous servir à l'avenir. Béatrice, quelle est la différence entre la dette et le déficit public?
Alors, le déficit public correspond à un solde annuel négatif du budget de l'ensemble des administrations publiques. Donc, c'est l'État, tous les organismes de sécurité sociale, hein, la maladie, la vieillesse, la caisse d'allocation familiale, et puis toutes les collectivités locales. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources, on parle de déficit. Si c'était l'inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, eh bien on parlerait d'excédent public. Ça, c'est pour le côté déficit ou excédent public. La dette publique, en fait, c'est la somme des déficits passés. Déficit de l'État, des administrations publiques locales et puis des organismes de sécurité sociale. Alors, en général, on la mesure par rapport au PIB. Donc, tu vois, si on fait un petit peu de comptabilité, le déficit, c'est un flux. Il est recalculé chaque année. La dette, c'est un stock qui s'accumule et qui grossit année après année.
Je range ça sur notre étagère dédiée à l'économie. Béatrice, le dossier en une de cette semaine se concentre donc sur la responsabilité de l'État français dans la hausse de ces données. Que disent les chiffres?
Bon, alors en 7 ans à la tête de l'État, le bilan d'Emmanuel Macron sur le front des finances publiques est accablant. L'endettement public a grimpé de 98,2% du PIB en 2018 à 110,6% à la fin 2023. Ça fait 1 milliards d'euros de plus de dette, hein, sur un total qui dépasse les 3 000 milliards. Le déficit là, des comptes publics, lui, atteint 5,5% du PIB contre 2,3% en 2018. C'est l'une des plus mauvaises performances de la zone euro avec l'Italie. Et puis, le déficit public a triplé en l'espace de 5 ans. La dépense publique est supérieure à la moyenne de nos partenaires européens, tout comme les prélèvements obligatoires. Bref, c'est une dérive inédite en un laps de temps ou c'est court.
Mais un des arguments face à ces chiffres, c'est bien sûr la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine.
Ben oui, c'est vrai. Hein, durant ces 7 années de Macron, la France a connu 2 crises majeures, inédites et totalement imprévisibles. Le Covid et la guerre en Ukraine. Donc, il a bien fallu que l'État protecteur joue son rôle, et ça, c'est bien normal. Hein, avec, tu te rappelles, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les plans d'aide d'urgence, et puis, au moment de la guerre en Ukraine, ben, le bouclier tarifaire, lorsque les prix de l'énergie ont flambé. Mmh. Mais en fait, le quoi qu'il en coûte a évidemment plombé les comptes. Ça, c'est la responsabilité de l'exécutif actuel.
Et pour quelle raison ?
L'exécutif a eu un rêve un petit peu fou. Hein. C'est celui de l'argent gratuit. Alors, beaucoup l'ont fait, hein, ce rêve. On a pensé pendant des années que les taux allaient rester très bas, qu'ils allaient même rester quasiment à zéro. Ben, le problème, c'est que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et puis, il y a aussi cette tentation de répondre à la moindre colère ou à la moindre grogne sociale par une dépense. Hein. Un rond-point bloqué, un plan d'urgence, un ouin-ouin, et puis on fait un chèque. C'est le fameux bouclier énergie. On aurait pu faire un chèque ciblé, c'est-à-dire faire en sorte que ça profite aux plus pauvres ou à ceux qui utilisent vraiment leur voiture. Le problème, c'est qu'on a choisi d'arroser le plus large possible. Ça a coûté quand même beaucoup d'argent. Et tout ça a été popularisé autour d'un terme qu'on a vraiment utilisé jusqu'encore récemment, c'est le « quoi qu'il en coûte ». Le problème de ce « quoi qu'il en coûte », c'est que les fonctions régaliennes, éducation, la sécurité, la santé, la justice, eh bien, prennent l'eau. Elles sont cannibalisées par une protection sociale qui pèse de plus en plus lourd dans le PIB, une protection sociale qui n'a pas fait reculer la pauvreté, une protection sociale qui ne satisfait plus personne.
Et en dehors de ce « quoi qu'il en coûte », est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs sur le plan économique ?
Alors, il y en a une dès le départ du premier quinquennat, c'est celle de la suppression de la taxe d'habitation. Mmh. Une erreur politique, d'abord, parce qu'en fait, tout le monde l'a oublié et le gouvernement, finalement, n'en a pas tellement tiré profit, et aussi une erreur presque économique, parce que ça a mis le bazar dans les finances publiques locales. La taxe d'habitation, c'était quand même 20 milliards d'euros par an en régime de croisière. Ben, c'est 20 milliards aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Alors, quand on regarde, en fait, comment on est passé de 55 milliards de déficit en 2018 à 154 milliards en 2023, on se dit, bon, le Covid et la guerre en Ukraine ont bon dos. Et là, on a fait travailler, en fait, des économistes, qui nous ont un peu débunké en fait le storytelling gouvernemental. Et ce qu'ils nous disent, c'est que sur les 154 milliards de trous dans les comptes publics enregistrés en 2023, il y en a 56 milliards qui sont imputables aux baisses d'impôts et de cotisations qui ont été accordées depuis 2018, 40 milliards à des dépenses publiques structurelles et additionnelles, comme le relèvement de la prime d'activité ou les mesures sur l'apprentissage. Et il n'y en a que 33 milliards, finalement, qui viennent des dépenses liées à la crise. Donc, tu vois, le Covid et la guerre en Ukraine, ça a bon dos.
Mais Béatrice, est-ce que le bilan d'Emmanuel Macron que tu nous décris, il est pire que celui de ses prédécesseurs ?
Alors, disons qu'il n'a pas fauté plus que ses prédécesseurs. C'était déjà le bazar avant. Ils n'ont pas fait pire, mais n'ont pas fait mieux. En revanche, l'exécutif n'en retire même pas un bénéfice politique, car en multipliant les arrosages, le quidam ne voit rien en réalité.
L'exécutif responsable de la hausse du déficit et de l'endettement, alors pour rassurer les fameuses agences de notation, Emmanuel Macron et ses ministres ont un plan, mais est-il vraiment tenable ?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
On maintient l'objectif de retour sous les 3% en 2027 et on en tire les conséquences en termes d'économie sur toutes les dépenses, État, dépenses sociales et collectivités locales. C'est ce que je propose.
L'annonce du plan de stabilité de l'exécutif, c'était il y a quelques jours. Cette version va désormais être présentée à la Commission européenne. Tu peux nous rappeler ce que contient le document, Béatrice ?
Alors, le plan de stabilité, en fait, c'est la trajectoire des finances publiques d'ici à 2027, que ce soit en matière de dette ou de déficit public. Alors, le déficit public, lui, il va graduellement et continuellement diminuer. Tu te rappelles, on a dit, on partait en 2023 de 5,5% du PIB. Eh bien, on va diminuer à 5,1% en 2024, 4,1% en 2025, 3,6% en 2026. Et magie des chiffres, on va passer sous le seuil des 3% à 2,9% du PIB en 2027, juste en dessous du fameux critère européen des 3%, tu sais, ce critère qui est gravé dans le marbre du traité de Maastricht. Mmh. La dette va continuer à s'alourdir hein, pour peser 112% du PIB à la fin du quinquennat. Et pour réduire le déficit, eh bien, un programme de coupe dans les dépenses publiques est promis. 10 milliards d'euros en plus cette année, 20 milliards l'année prochaine, auxquels devront s'ajouter, d'après les calculs de l'OFCE, une petite quinzaine de milliards chaque année d'ici à 2027. Donc officiellement, tout est sous contrôle, il n'y a pas de danger.
Pour ce dossier de une, vous avez donc interrogé des experts qui ont aussi évalué ce plan. Qu'en disent-ils ?
Ils disent qu'il n'est pas très crédible et même à la limite de la sincérité. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a quelques jours, le Haut Conseil des Finances Publiques, qui est un organe indépendant et très sérieux, a jugé que la trajectoire de réduction du déficit public proposée par le gouvernement manquait, et je cite, de crédibilité et de cohérence.
Et donc, comment ils expliquent ça ?
Alors, dans le détail, on parle des coupes franches et durables dans les dépenses publiques. Or, le gouvernement fait l'hypothèse forte que cet ajustement budgétaire n'aura aucun impact sur l'activité, sur la croissance. C'est même l'inverse, hein, puisque au fur et à mesure, les années passent et la croissance réaccélérerait pour atteindre 1,8% en 2027. Un niveau supérieur, en fait, au potentiel de l'économie française. C'est comme si tu disais à un malade auquel tu viens de faire une saignée, bon ben, c'est bon pour vous, et puis tout de suite, vous allez courir le 100 mètres et vous allez courir le 100 mètres de plus en plus vite. En réalité, c'est pas possible. Le risque, c'est que l'activité soit plus faible que prévu, les recettes fiscales moins dynamiques et que, en bout de course, l'objectif de réduction du déficit ne soit pas atteint.
D'après le plan de l'exécutif, que faut-il faire pour tenir cet objectif ?
Pour tenir la feuille de route, il faudrait aussi que chaque année, les dépenses publiques soient rabotées d'une petite quinzaine de milliards d'euros. Cela veut dire que d'ici 2027, il faudra trouver quasiment 50 milliards d'économies. Là aussi, le Haut Conseil des Finances Publiques a dit une rigueur budgétaire comme ça, dans la durée, on ne l'a jamais fait. Surtout sans impact sur la croissance. Donc ça pose vraiment des questions sur la sincérité et la cohérence de tout ce plan.
Béatrice, toutes ces interrogations ainsi que l'inquiétude autour de la dégradation de la note de la France, est-ce que ça peut avoir des conséquences ?
Alors paradoxalement, à court terme, il n'y a pas vraiment de risque de crise. Il y a en fait une sorte de biais pervers dans le fonctionnement des marchés financiers. Les grands investisseurs internationaux, les fonds de pension, les assureurs vie, les compagnies d'assurance américaines, japonaises, allemandes, toutes ces grandes institutions financières ont besoin d'acheter dans leur portefeuille, pour des questions souvent réglementaires en fait, de la dette d'État, et notamment de la dette d'État qu'ils trouvent sûre, en fait. Et donc, quand ils regardent tous les pays, quand ils screenent, qu'ils font leur choix de portefeuille, quand ils regardent l'Europe, y a d'abord l'Allemagne, évidemment, pays qu'ils considèrent le plus sûr. Le problème, c'est que l'Allemagne, parce qu'elle a des comptes plutôt au carré, elle émet peu de dettes. Et donc, il n'y a pas suffisamment de dettes allemandes pour satisfaire tous les besoins de ces investisseurs internationaux. Donc, après, ils se tournent vers la France. La France, elle, qui va émettre beaucoup de dettes, rien que sur l'année 2023, les émissions de dettes françaises vont être 4 fois supérieures aux émissions de dettes allemandes. Donc, c'est une sorte d'erreur de fonctionnement des marchés qui joue finalement en faveur de la France. Et puis, il y a la Banque Centrale Européenne qui veille au grain. Il y a un programme de rachat presque illimité de titres de dette si ça se passe mal. Donc la BCE pourrait endosser son costume de sauveur en dernier ressort en cas de crise.
Dans ce cas, pourquoi en faire autant autour de la question de la dette et du déficit ?
Parce que c'est un sujet très politique. Et un sujet politique pour le patron de Bercy, pour Bruno Le Maire, car en fait, il a un peu lié son avenir politique au sérieux budgétaire. Pour Macron aussi, hein, puisque ça restera dans son bilan. Mais le risque en réalité, si on veut parler de risque économique, il est plutôt à long terme.
C'est-à-dire ?
Mais que se passerait-il par exemple en 2027 si le Rassemblement national s'installait à l'Élysée et déroulait son programme économique avec par exemple une des mesures phares qu'il prône, c'est-à-dire le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Ça coûterait des milliards. Là, les marchés financiers qui jusqu'à présent jugent plutôt positivement la France, ben, sanctionneraient beaucoup la France. Et en fait, on a un bon exemple pour voir ce qui risquerait d'arriver à la France. C'est ce qui s'est passé avec Liz Truss au Royaume-Uni en 2022. Cette éphémère première ministre britannique a présenté un projet de loi de finances, une sorte de budget complètement dingue, ultra-libéral avec des baisses d'impôts très 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 massives. Et en fait, tout ça n'était pas très crédible. La sanction a été immédiate. Il y a eu une crise très sévère sur la livre sterling. Les taux d'intérêt ont flambé. Et puis en quelques jours, Liz Truss, elle a démissionné. Mmh. Alors certes, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans ce genre de plan, mais pour éviter une crise à long terme, il faut une base solide. Et là, on n'y est pas du tout.
Merci beaucoup Béatrice pour ce cours de macroéconomie et à bientôt.
À bientôt.
Béatrice Mathieu, grand reporter et spécialiste des questions économiques. Je rappelle donc le dossier en une de l'Express cette semaine, « Dette, la France plombée », à lire dans le magazine en kiosque jusqu'à mercredi et sur l'express.fr. Si ce n'est pas déjà fait, chers auditeurs, vous pouvez souscrire à un abonnement pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. C'est là-bas que vous pouvez mettre des étoiles si ça vous plaît et laisser des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.